Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour le troisième et dernier volet consacré à Livres en Vigne, fête du livre au milieu du vignoble bourguignon, un événement littéraire et culturel organisé depuis plus de 10 ans par Evelyne Philippe et ses équipes au château du Clos de Vougeot, en Côte d'Or donc, entre Beaune et Dijon, et c'était les 22 et 23 septembre dernier. Une centaine d'auteurs étaient rassemblés, dont la marraine de cette édition, Danielle Salnave de l'Académie française. Et aujourd'hui, nous allons donc faire un plein de culture et de rencontres avec 3 auteurs que nous avons interviewés au château du Clos de Vougeot. Une belle vendange donc, à travers les reportages que nous allons vous proposer en cette fin de matinée. D'abord, en fin d'émission, Jean-Joseph Julot nous donnera lecture de la dictée de Livres en Vigne, parrainée par Didier Van Kovelaert est présidé donc par Jean-Joseph Julot. Nous donnerons la parole également à Camille Pascal pour son roman « L'été des 4 rois » aux éditions Plon. Et nous ouvrons ce 361e numéro de Wagon Livre avec Abnous Chalmani pour son roman paru chez Grasset « Les exilés meurent aussi d'amour ». Abnous Chalmani à notre micro.
Alors, je suis Abnous Chalmani, je suis écrivain. Je publie en cette rentrée littéraire 2018 mon 2e livre et 1er roman qui a pour titre « Les exilés meurent aussi d'amour » chez Grasset. Mon premier livre était un pamphlet féministe et un récit autobiographique. Et là, je m'attaque au merveilleux roman.
Alors, ce roman a pour titre donc « Les exilés meurent aussi d'amour ». C'est l'histoire d'une petite fille qui arrive en France dans les années 1980. Elle arrive à Paris, elle se prénomme Chirine et elle arrive avec ses parents en France. Ils fuient l'Iran et ils s'installent chez les tantes, 3 tantes, Mitra, Zizi et Tala. C'est les sœurs Hedayat d'ailleurs. Et cette famille est une famille très étrange parce que en fait, les trois tantes sont des militantes révolutionnaires communistes. Et cette petite fille qui aspire à vivre son enfance va d'abord affronter un monde d'adultes inquiétant et pas très sympathique. Quand bien même les personnages sont hauts en couleur.
C'est vrai. L'idée, c'était deux idées qui m'ont accompagnée dans la démarche de pourquoi écrire ce roman. La première, c'était effectivement que je voulais donner une autre image des exilés, en tout cas une image beaucoup plus romanesque. Et j'ai toujours pensé que l'exil était une épopée, une aventure fabuleuse. Et je trouvais ça dommage de restreindre l'exil à l'exil. L'exil réduit l'exilé à n'être plus qu'un exilé alors qu'il continue d'aimer, d'avoir des opinions politiques. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est effectivement de jouer sur le politique et de l'opposer à l'amour. Donc cette gamine, qui comme toutes les gamines à 9 ans, aspire à l'affection, à l'amour, à l'aventure, se retrouve coincée dans l'exil et découvre le vrai visage de sa famille, puisque l'exil est avant tout un dévoilement. Ce qu'elle était incapable de voir en Iran, puisque c'était le quotidien, c'était les habitudes, tout lui paraissait normal, dans l'exil, tout se dévoile, la vérité se dévoile. Donc d'un coup, elle va découvrir que ses tantes qu'elle adorait sont au fait des redoutables sorcières, que sa mère est une magicienne, que son père est un magnifique loser, que son grand-père est horrible. Et tout ça sont des choses qui sont liées à l'exil, parce qu'il y a quelque chose dans l'exil, c'est aussi de faire comme si de rien n'était. Et le fait d'utiliser le communisme, c'était ces femmes continuent à attendre le grand soir alors qu'elles ont déjà perdu. Donc ça me donnait aussi une possibilité de pouvoir faire beaucoup de blagues.
alors, défile dans l'appartement aux côtés des sœurs. Il y a Amir qui fait partie d'une internationale révolutionnaire, toujours avec sa veste kaki et un air de tueur.
Oui, qui ne voit que de la vodka la moins chère et qui ne fume que des bastos comme Ho Chi Minh.
Il y a le chinois.
Oui,
et puis il y a Omid, le jeune juif.
Le professeur de mathématiques juif iranien qui est l'amoureux de Tala. Et Shirin va faire une fugue parce qu'elle étouffe dans cet appartement. Et c'est lui qui va la sauver de sa fugue. Et elle va en tomber tout de suite amoureuse parce qu'au contraire de tous les gens qui l'entourent, Omid est capable de dire ses sentiments. Et Omid tout d'un coup devient le représentant de l'amour et de la liberté. Et je suis persuadée que les deux vont très bien ensemble.
Néanmoins, le fait que Omid soit juif ne lui donne pas que des atouts dans cette famille qui va se révéler antisémite.
Complètement antisémite, c'est un antisémitisme, exactement, c'est un antisémitisme d'extrême gauche, ils sont profondément antisémites, et en plus, Omid, au contraire de tous les Iraniens qui entourent mon héroïne, est androgyne, alors qu'effectivement, pour cet enfant qui vient d'Iran, les hommes sont très hommes et les femmes très femmes, et d'un coup, elle tombe sur cet homme qui non seulement est androgyne, mais en plus juif, et en plus, il dit ses sentiments, donc c'est absolument l'opposé de sa famille, donc inévitablement, elle va tomber amoureuse d'un ailleurs.
Omid donne des cours de français à la petite Shirin. Et toi, Abnous, comment a été ton approche de la langue française? Comment l'as-tu apprise, notre langue?
Eh bien, moi, j'ai apprise grâce à Victor Hugo et mon père. C'est effectivement quand on est arrivé en France et mes parents, dans l'exil, ont choisi la France parce que c'était le pays de Victor Hugo et que nous sommes des amoureux de la littérature dans cette famille et d'autant plus de la littérature française. Et le jour 1 de l'exil, quand nous sommes arrivés à Paris, mon père a ouvert Les Misérables devant moi. Lui non plus ne parlait pas français. Il a sorti un dictionnaire franco-persan que nous avons toujours à la maison et dont ma mère s'est servie pour pouvoir lire mon premier roman parce que c'est encore nécessaire. Et voilà. Et on a commencé avec Les Misérables et c'est comme ça que j'ai appris le français avec mon père.
Abnous Chalmani, à l'instant, à notre micro pour son premier roman intitulé « Les exilés meurent aussi d'amour », un premier roman disponible aux éditions Grasset, et un ouvrage teinté de réalisme magique qui nous plonge au cœur d'une communauté fantasque sous l'œil drôle, tendre, insolent et cocasse d'une Zazie persane qui, au lieu de céder aux passions nostalgiques, préfère suivre la voie que son désir lui dicte. Abnous Chalmani revient juste après la pause musicale que nous vous proposons. C'est Wagon Livre sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour le compte-rendu de la 11e édition de Livres en Vigne qui s'est tenue au château du Clos de Vougeot les 22 et 23 septembre dernier.
Thank you. back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know that much is true.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Abnous, ton premier roman, dont je rappelle le titre, Les exilés meurent aussi d'amour, c'est aux éditions Grasset. C'est une plongée dans le monde des adultes, dans ce que Chirine appelle notre prison familiale. Elle désigne aussi la famille à travers l'expression de cocon moisi. Et, évidemment, Chirine découvre le français progressivement. Elle découvre aussi le monde affolant des adultes. Des adultes pétris par l'idéologie politique. Et ce qui leur manque, enfin, le gros défaut de ces adultes, c'est qu'ils sont victimes d'une forme de sécheresse de cœur. Ils n'ont pas d'émotion. Or, cette petite Chirine, elle est petite et elle a besoin d'amour, elle a besoin d'éclater. C'est une enfant qui a besoin de se développer, normalement.
Exactement, c'est exactement ça. J'ai opposé. Effectivement, là, il se trouve que c'est des communistes, mais ça aurait pu être d'autres types d'idéalisme. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je partage avec mon héroïne. C'est que je pense que l'humanisme s'arrête là où commence l'idéalisme. Et l'idéalisme est bâti d'idéologie. Et elle constate qu'effectivement, autour d'elle, ces gens qui passent leur temps à s'engueuler sur des sujets politiques et comment transformer l'homme sont déjà incapables de se transformer eux-mêmes et sont surtout incapables d'amour. Parce qu'ils sont incapables de dire ce qu'ils ressentent. Et donc effectivement, dans toute la première partie, c'est une enfant qui est déjà amoureuse, qui est complètement... Et dans la deuxième partie, elle va avoir 17 ans. Et je fais cette comparaison-là, c'est que 17 ans chez une fille, ça correspond à peu près à la maturité sexuelle chez le singe. Et vous pouvez avoir un petit singe chez vous au moment où vous vous amusez avec lui. Et effectivement, au moment où il atteint la maturité sexuelle, il faut soit le vendre, soit le noyer dans la baignoire parce qu'il est absolument plus incontrôlable. Et là, mon héroïne va... En plus, en découvrant l'amour physique, va se rendre compte que l'amour et la chair sont quand même les meilleurs moyens de combattre la sécheresse intellectuelle qui assèche le cœur.
Elle découvre certes l'amour, elle découvre la langue française, elle découvre la France aussi par le biais du cinéma français. Oui. Et il y a un passage que je trouve savoureux, c'est le passage au cours duquel Chirine et son père visionnent à la télévision, sur une cassette VHS, un film, et pas n'importe quel film, ce sont Les Valseuses.
Oui, oui, Les Valseuses. Effectivement, c'est une famille cinéphile, et en Iran... le cinéma français n'a jamais réussi à pénétrer l'Iran. Il y avait beaucoup de cinéma italien, beaucoup de cinéma américain. Et quand ils arrivent en France, ils se disent « bon bah autant utiliser le cinéma français pour comprendre où est-ce qu'on est tombé ». Et le problème du cinéma français, c'est que, enfin le problème, l'avantage, c'est qu'il est intime, il est basé sur le couple, sur la sexualité. Et donc le père se dit « bah autant commencer par le film dont tout le monde parle ». Et en l'occurrence, Les Valseuses. Et la famille se retrouve à regarder Les Valseuses. Eh bien, ils font comme ils font habituellement. Comme si de rien n'était. Et cette gosse, à travers Les Valseuses, va dire « voilà ce que la France attend de moi, à poil et en voiture, et c'est merveilleux parce que c'est le contraire de l'immobilité, de l'exil ». Et là, elle se sent sauvée parce qu'elle découvre aussi que ce soit le sexe, que ce soit un suicide par le vagin, que ce soit un viol dans une voiture, que ce soit des orgasmes, qu'importe, ce qui compte, c'est de raconter une histoire et une jolie histoire.
Alors, un petit mot sur le grand-père. Alors, le grand-père, c'est un être inquiétant. Il est toujours drogué, en fait.
Il est opiomane.
Alors, il y a une scène où il fait une overdose. Et puis, il y a une scène encore plus surprenante, parce que Shirin a pris l'habitude de vivre cachée sous le canapé du salon des tantes. Et un jour, elle assiste à une scène très troublante.
Oui, c'est qu'elle, comme les grandes bourgeoises en Iran, ils se retrouvent dans un tout petit appartement à Paris. Et donc, pour avoir un coin à elle, elle se réfugie sous le canapé avec des gâteaux, des carnets, pour décrire tout ce qui se passe autour d'elle. Et un jour, où elle est planquée sous le canapé, le grand-père lance une VHS, c'est un film porno. Donc, juste avant de découvrir les valseuses, elle découvre ce que c'est que la pornographie. Elle est extrêmement choquée, d'autant plus qu'elle sent le grand-père bouger au-dessus d'elle et il est en train de se masturber. Et le grand-père, effectivement, est une quintessence de salaud, c'est un violeur incestueux, c'est un sale type qui n'a aucun désir si ce n'est celui de compter son argent.
Et puis, il y a un personnage extrêmement attendrissant, c'est la mère de Shirin, qu'elle qualifie d'alchimiste. C'est une femme bricoleuse qui est capable de réparer des meubles, de leur donner un aspect de jeunesse. Et elle est... Alors, il y a un épisode, c'est pendant le Shab Yalda.
Shab Yalda.
Oui. Alors, c'est une fête, c'est la nuit du destin ou la nuit des rois.
C'est
une fête iranienne.
C'est une fête qui date du temps du zoroastrisme, qui est le premier monothéisme révélé. Et on continue aujourd'hui encore en Iran, malgré la révolution, malgré les mollahs. Toutes les fêtes nationales sont encore les fêtes zoroastriennes. Et toutes ces fêtes-là sont liées aux équinoxes, aux solstices, aux changements de saison. Le nouvel an, c'est au moment de l'équinoxe de printemps. Et le Shab Yalda, ça se passe pendant le solstice d'hiver, donc c'est la nuit la plus longue et qu'on appelle la nuit des rois, la nuit du destin, où les Iraniens se retrouvent pour tirer le destin dans un recueil de poésie et célébrer le fait que les jours vont recommencer à être rallongés. Et effectivement, la mère c'est la première fois qu'en France, après l'exil, ils invitent les Français à dîner. Et donc la mère, qui est une cuisinière merveilleuse et qui a ses dons, c'est qu'elle est capable de rendre toutes les dœurs magiques. Et elle est autant bricoleuse, elle fait des choses merveilleuses avec ses mains. C'est pour ça que sa fille, qui est en train d'apprendre le français, découvre le terme alchimiste. Elle se rend compte que sa mère n'est pas seulement une boniche, c'est qu'elle est une alchimiste. Et c'est grâce à la langue française qu'elle réussit à l'habiller autrement.
La mère de Shirin aussi est très frottée de superstition.
Complètement.
Elle lit dans le mar de café,
par exemple. Elle est complètement... C'est un personnage fantasque, excentrique, et je refuse de la voir comme une sacrifiée parce qu'elle est aussi la conséquence de culture qui enfile tellement de préjugés autour des femmes, de leur corps, de leur être. Elle les a totalement intégrés. Et à travers l'exil et à travers la manière dont sa fille évolue, elle va se mettre, elle, à évoluer et à finir par être peut-être pas totalement heureuse, mais à s'accepter un peu plus.
Alors, il y a Nowruz, c'est l'équivalent du Noël.
C'est le nouvel an.
C'est le nouvel an.
C'est le nouvel an, mais qui est aussi autant le nouvel an que Noël. C'est un mélange des deux. C'est avec les Kurdes, les Arméniens, effectivement, et même des Chinois, des Hindous, des Parsis d'Inde. Nous fêtons le nouvel an. C'est une fête qui dure 15 jours, enfin 13 jours exactement, qui commence avec le Nowruz, qui est effectivement, on dresse une table qui pourrait ressembler à un arbre de Noël où 7 symboles commençant par la lettre S sont posés, qui représentent la fécondité, la prospérité, l'amour, l'amitié, etc. Et c'est une fête merveilleuse et pendant 13 jours, tout l'Iran s'immobilise pour fêter et on mange beaucoup, on boit beaucoup et c'est une fête merveilleuse.
J'ai noté cette réflexion dans la bouche de Shirin. Alors évidemment, je reviens au film Les Valseuses.
Oui.
Elle ne connaît pas le sens.
Non, elle va mettre 20 ans à apprendre ce que
veut dire
les valseuses.
C'est la raison pour laquelle elle dit c'est long de devenir français.
Oui.
Et toi, Abnous, ça a été long de devenir française ?
Est-ce que ça a été long de devenir française? Non, parce que j'ai découvert assez rapidement, je devais avoir... quand on est arrivé en France, on s'est installé dans le quartier de la Bastille. Et moi, très vite, j'ai été passionnée par les pierres qui racontaient le passé. Et évidemment, la Bastille, Révolution française, 18e, j'étais un peu traumatisée par l'idée de révolution. Et mon père m'avait dit, toutes les révolutions ne sont pas des ratages. Et celle-là a fini par réussir. Et c'est en me plongeant dans la littérature libertine du 18e siècle que j'ai trouvé la clé qui m'a rendue française, puisque toute la littérature libertine du 18e siècle refuse la naissance, refuse les préjugés, refuse les dogmes de l'Église comme les dogmes de la monarchie, et c'est au cœur des lumières du 18e siècle que j'ai su que j'étais française.
À l'instant, un autre micro rencontré lors de la 11e édition de Livres en Vigne le 23 septembre dernier au château du Clos de Vougeot, c'était Abnou Chalmani pour son premier roman intitulé « Les exilés meurent aussi d'amour », un premier roman disponible en librairie aux éditions Grasset. Après la pause musicale, une autre rencontre avec l'essayiste et historien Camille Pascal qui évoquera son roman « L'été des quatre rois » paru fin août dernier aux éditions Plon. Ce roman a reçu d'ailleurs il y a quelques jours le grand prix du roman de l'Académie française. C'est à découvrir juste après la pause musicale que nous allons partager ensemble. Je vous rappelle que c'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi pour le compte-rendu de la 11e édition de Livres en Vigne qui s'est tenue fin septembre dernier en Côte d'Or, très précisément au château du Clos de Vougeot, entre Beaune et Dijon.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là venu pour rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qui a sonné l'heure. Dis adieu à jamais. Et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu gémis à présent que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens, tu pleures. Tu suffoques, tu blémis à présent que ce n'est heureux. Des adieux à jamais, je suis heureux. Te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de nous accompagner jusqu'à midi sur Radion pour ce numéro de Wagon Livre consacré à un compte-rendu de la 11e édition de Livres en Vigne qui s'est tenu les 22 et 23 septembre dernier au château du Clos de Vougeot. Le premier roman de Camille Pascal, L'été des quatre rois, disponible aux éditions Plon, plonge le lecteur au cœur de l'été 1830. En l'espace de 2 mois, 4 rois se sont succédés sur le trône de France, Charles X, Louis XIX, Henri V et enfin Louis-Philippe. Rencontré à Livres en Vigne, sans tarder, voici Camille Pascal à notre micro.
Je ne suis pas né écrivain. Il y a des écrivains qui, dès l'âge de 12 ans, savaient qu'ils écriraient, qui ont des écrivains même chevronnés, qui ont encore des manuscrits dans leur tiroir, qu'ils n'ont jamais publiés. Non, moi, j'ai en fait eu plusieurs carrières. J'ai été universitaire, j'ai enseigné l'histoire à l'université, à la Sorbonne notamment. Puis j'ai fait une carrière dite politico-administrative, j'ai travaillé pour plusieurs ministres dans des cabinets ministériels, pour le ministre de l'Éducation nationale. J'ai occupé des fonctions dans des institutions audiovisuelles, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, aux côtés de Dominique Baudis, qui a été mon mentor, à France Télévisions comme secrétaire général. Et puis j'ai eu cette aventure incroyable que j'ai racontée dans un livre. D'ailleurs, ça a déclenché l'envie d'écrire et de publier, puisque j'ai été la plume, puisque c'est comme ça que l'on dit, de Nicolas Sarkozy dans les 2 dernières années de son mandat.
Donc, scène de la vie quotidienne à l'Élysée.
Tout à fait.
Rappelons aussi Dernier Mondain et Ainsi Dieu choisit la France.
Oui, alors après avoir raconté mes souvenirs à l'Élysée, mes souvenirs de dîner en ville pour m'amuser un peu, j'ai décidé de renouer avec l'histoire. Donc j'ai écrit un livre il y a 2 ans sur les liens entre l'Église catholique et la France. Pourquoi en gros parle-t-on de la fine de l'Église ? Ça c'était donc Ainsi Dieu choisit la France. Et puis dans ce livre Ainsi Dieu choisit la France, j'avais en toute immodestie, essayer de brosser un portrait de la France sur 15 siècles en 350 pages. Alors là, je me suis dit que j'allais faire l'inverse et que donc j'allais raconter 3 semaines en 650.
Alors, avec L'été des quatre rois, votre roman couvre les journées de juillet 1830 et le roman s'ouvre sur le réveil du roi Charles X, roi très pieux, homme de 73 ans. Est-ce que vous pouvez rappeler et resituer le retour de Charles X au pouvoir, on va dire plus de 20 ans après les épisodes terribles de la révolution, grandioses et terribles de notre révolution.
Alors, Charles X, c'est un personnage particulier, puisque c'est donc le dernier frère du roi Louis XVI. Il a quitté la France le 16 juillet 1789. Donc lui, il avait vite compris qu'il n'était pas le bienvenu dans une France révolutionnaire. Et il ne va revenir que 25 ans plus tard, en 1814, après la défaite de Napoléon et la chute de l'Empire, son second frère va régner sous le nom de Louis XVIII. Et à la mort de son frère, qui n'avait pas d'enfant, c'est lui qui va régner. Donc en 1824, lorsqu'il devient roi de France, c'est un homme qui est d'une certaine façon téléporté du Versailles de 1789. Voilà un homme qui arrive, qui n'a rien appris ni rien oublié, et qui considère que la France ne pourra être sauvée que si elle rétablit la monarchie absolue dans sa pureté. Voilà un homme qui est donc roi de France à la fin des années 1820, après la Révolution, après le Directoire, après le Consulat, après l'Empire, après la Première Restauration, après les 100 jours, et qui dit « moi je régnerai comme Louis XIV ».
Et comment ce roi, Charles X, a-t-il été accueilli par le peuple de France ? Je ne parle pas de l'aristocratie qui, de toute façon, devait y être favorable, mais comment le petit peuple de France percevait ce Charles X, roi très pieux, très...
Mais au début, ça se passe très bien. Au début, ça se passe très bien parce qu'il succède à son frère, le roi Louis XVIII, qui était une immense intelligence politique, alors que lui est un imbécile, il faut être tout à fait franc. Donc Louis XVIII a une intelligence politique qui est celle de comprendre son temps et d'essayer d'adapter la France, de refermer les plaies de la Révolution et de l'Empire et d'adapter le système politique français en trouvant une synthèse entre... un modèle anglais et un modèle monarchique français. Et donc, Mais le roi Louis XVIII n'était pas très aimé parce que c'était un roi podagre. Hein. Vous savez, il avait la goutte, donc il était énorme. Il ne bougeait pas. Il était toujours dans une chaise roulante. Il faisait vieux monsieur. Bon. Alors que Charles X, du haut de ses 70 ans, est un homme extrêmement svelte, extrêmement sportif, extrêmement élégant et d'une immense courtoisie. C'est-à-dire que Charles X est un homme, alors il a d'immenses défauts, mais il a une qualité, c'est un gentilhomme. Voilà, c'est qu'il a toujours le mot gentil, toujours la phrase adéquate en fonction de... Voilà. Donc au début, ça se passe bien. Ça se passe moins bien lorsqu'il commence à appeler au gouvernement des ministres dits ultra, c'est-à-dire des ministres qui veulent effacer la Révolution française. Alors, ça commence par la loi sur le milliard des émigrés, c'est-à-dire qu'il faut rembourser tout ce qui a été pris aux émigrés. Ensuite, il y a ce projet de loi qui veut condamner le blasphème. Et c'est vrai qu'il est entouré. Lui-même était un libertin hein, dans sa jeunesse, mais qui s'est converti pendant la Révolution et qui est persuadé que ce qui est arrivé à la France est dû aux péchés qui ont été commis par les Bourbons, notamment par son grand-père, le roi Louis XV. Et donc, il va rentrer dans une vie extrêmement sévère, extrêmement pieuse. Et son obsession, c'est rétablir la France dans la pureté à la fois d'une monarchie absolue et de droit divin. Le problème, c'est que la France, elle, en 40 ans, elle avait évolué. Et que personne ne va comprendre ce coup d'État, parce que c'est un coup d'État, qu'il pratique en signant les ordonnances du 25 juillet 1830. Pourquoi personne ne comprend ? Parce qu'il y avait eu un accord. C'est-à-dire qu'on avait accepté le retour des Bourbons en 1814 et 1815, à condition qu'ils acceptent de leur côté les avancées de la Révolution, c'est-à-dire l'égalité, des droits, une vie parlementaire. Ce que Louis XVIII va parfaitement respecter. Mais là, tout d'un coup, que ce roi décide, alors c'est pas rien, hein, en 4 ordonnances, il va supprimer il va d'abord supprimer le droit et la liberté de la presse. Ensuite, il va changer les règles électorales.
Dissoudre la Chambre.
Qu'il trouve beaucoup trop libéral. Alors les malheureux, ils avaient eu le malheur. Enfin, vraiment, les parlementaires avaient, avec beaucoup de respect, expliqué que peut-être il fallait une politique plus libérale. Eh bien non. Donc, il décide de tout supprimer parce qu'il veut une assemblée à sa main. Et il pense que c'est à cause des journaux que les gens votent mal. Bon, alors voilà. Ça va foudroyer parce que personne ne s'y attend. Et il va y avoir une résistance que personne n'attendait. Cette résistance, ce qui est intéressant, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'elle commence dans les journaux. Oui.
C'est la presse parisienne qui est extrêmement vigilante à l'égard de la disparition de leur métier. Parce que c'est le chômage, c'est l'exil ou au pire la prison.
Exactement. Et donc, les journalistes qui sont à Paris, on est au mois de juillet, il fait une chaleur terrible. Hein, et les journalistes se disent, mais... nous allons être arrêtés. C'est-à-dire que si la liberté de la presse est supprimée, ben nous allons être arrêtés. Et très courageusement, autour d'un homme qui va faire entendre parler de lui pendant des années et qui va marquer la vie politique française de tout le 19e siècle, c'est Adolphe Thiers, qui à l'époque est un jeune journaliste. Vous savez, Adolphe Thiers, c'est le modèle de Rastignac hein, pour Balzac. Donc il ne faut pas oublier ça. C'est ce jeune provincial de toute petite bourgeoisie, dont le père est, on ne sait pas très sûr que ce soit son père, enfin, et qui, par son intelligence politique, a séduit Talleyrand, qui est quand même pas né de la dernière pluie, qui est quand même un très grand seigneur de l'Ancien Régime, qui lui a tout compris et qui va aider ce jeune homme à monter et à faire sa carrière dans Paris. Et Thiers va convaincre ses collègues journalistes du débat de signer une proclamation s'opposant aux ordonnances.
Alors, il est à la tête d'un journal...
Le National. Il est à la tête d'un journal, Le National, qui est financé par Talleyrand et... par un certain nombre de banquiers, notamment Lafitte et Rothschild. Donc, cette proclamation aurait pu tomber à l'eau, mais au lieu de faire arrêter les journalistes qui signent cette déclaration, le préfet de police et le ministre de l'Intérieur décident de fermer les imprimeries. Erreur fatale, parce que une fois que les imprimeries sont fermées, ben les ouvriers imprimeurs rejoignent les journalistes et en réalité vont se battre contre ces ordonnances qui les privent de leur travail et de leur gagne-pain. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'à cette époque-là, vous êtes payé à la journée. Donc, si on vous ferme votre outil de travail, vous, à la fin de la semaine, vous ne mangez pas.
L'essayiste et historien Camille Pascal, à l'instant, à notre micro pour son roman, paru chez Plon et intitulé « L'été des quatre rois ». On le retrouve juste après la pause musicale. C'est Wagon Livre sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour le compte-rendu de la 11e édition de Livres en Vigne. C'était les 22 et 23 septembre dernier en Côte d'Or, au château du Clos de Vougeot, entre Beaune et Dijon.
As-tu déjà As-tu déjà oublié? Jamais entre nous, les pour toi, n'importe où. As-tu déjà oublié? Et je te soignerai, jamais je ne te laisserai, jamais je ne te laisserai. À force d'inventer le pire, tout finit toujours par se réaliser. Notre passion va tarir, et comme des milliers, on va se quitter. Tu sais, certains sont nés pour détruire, d'autres ont du mal à s'empêcher de mentir. Mais tout le monde s'accorde pour souffrir, et les cœurs brisés se mettent tous à chanter. As-tu déjà
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Dans quelques secondes, nous allons retrouver la suite de l'entretien avec Camille Pascal pour son roman intitulé « L'été des quatre rois ». Un été inédit dans l'histoire de France, cet été 1830, un été unique, car en l'espace de 2 mois, 4 rois se sont succédés sur le trône de France, Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. Retour donc sur une période méconnue, la Révolution de 1830. C'est ce que va nous expliquer l'historien et conseiller d'État Camille Pascal, qui nous plonge donc dans cet été 1830. Camille Pascal, qui a été très récemment récompensé par le Grand Prix de l'Académie française. Camille Pascal, on peut affirmer que la presse a incontestablement joué un rôle dans la genèse de l'insurrection de 1830. Est-ce un cas unique dans l'histoire de France ?
C'est la première fois. Et vous savez, on ne connaît pas cette révolution de 1830, on la connaît très peu. Elle est prise entre 1789 et 1848, ou entre 1789 et la Commune. Mais notre univers politique et institutionnel, il est né de là. L'idée d'une chambre haute et d'une chambre basse, l'idée de la liberté de la presse, ce lien entre la presse et les grands industriels, c'est vraiment c'est la structuration de ce monde, elle se fait à ce moment-là.
Alors, il y a témoin de ces événements, un jeune homme qui va connaître une grande postérité littéraire, c'est Stendhal que vous faites revivre dans sa petite chambre mansardée, et il voit, comme d'autres Parisiens, les premières agitations de rue, et finalement, il ne semble pas y accorder grande importance.
Mais, vous savez, moi, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, j'ai pas voulu faire un cours, j'ai pas voulu faire un cours d'université. J'ai voulu prendre le lecteur et le plonger directement dans un monde et dans un temps qui n'est plus le sien. C'est-à-dire lui faire, si j'ose dire, emprunter une sorte de machine à remonter le temps. Et donc j'ai pris les personnages tels qu'ils sont à ce moment-là. Et à l'époque, Henri Bayle ou Stendhal, personne ne sait qui il est. Comme Hugo. Alors, parce qu'il faut quand même savoir qu'en 1830, vous allez avoir à Paris, assister à ces événements, ébahi Stendhal, Vigny, Hugo, Chateaubriand, Dumas. Enfin, c'est-à-dire que toute l'école romantique française, celle qu'aujourd'hui on apprend encore dans les écoles, ils sont là. Mais ils ne sont pas là en tant que les grands écrivains que nous connaissons aujourd'hui. Ce ne sont pas les statues de la littérature française dont nous avons, nous, l'image. Ce sont de jeunes gens. Et Stendhal, d'abord, il a deux problèmes. Un, il est harcelé par son un éditeur qui veut absolument qu'il termine le manuscrit du Rouge et du Noir parce qu'il a été payé et qu'il n'a pas terminé. Bon, son deuxième problème, c'est qu'il a une maîtresse italienne qui est un peu, qui a le sang chaud et que lui rencontre quelques petits problèmes d'ordre de la panne sexuelle. Donc ça l'obsède. Bon. Donc il est là, pris entre sa maîtresse qui le harcèle, son éditeur qui le harcèle. Il est à l'hôtel, il vit à l'hôtel, rue de Richelieu. La révolution éclate en bas de chez lui. La révolution éclate en bas de chez lui, rue de Richelieu, parce qu'on va piller l'armurier qui est au pied carrément, quasiment de sa maison. Cet homme est un libéral. Il est aujourd'hui, on dirait, c'est un homme de gauche. Il devrait descendre et se joindre au cortège, comprendre, essayer. Non, il ferme la fenêtre et il met des boules-caisses. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a plu. De même, Hugo. Vous voyez, à ce moment-là, il faut que l'auditeur comprenne. Nous sommes en juillet 1830. Stendhal termine le manuscrit du Rouge et du Noir pendant que Victor Hugo commence celui de Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que ces deux chefs-d'œuvre de la littérature française, écrits par deux géants de la littérature française, ont écrit leurs livres les plus célèbres pendant cette révolution et qu'au lieu de penser à la révolution, ils pensaient à leurs livres?
Camille Pascal, alors finalement la chute de Charles X fait arriver un autre homme au pouvoir.
Ben oui, c'est-à-dire que... ça va très vite, ça va mal se passer. Ça va mal se passer parce que Charles X va vite, très vite perdre les rênes. Il n'avait prévenu personne de son coup d'État. L'armée est désorganisée. Le peuple de Paris résiste. Très vite, il comprend qu'il faut qu'il parte. Et donc, comme il doit, il part, il abandonne le pouvoir. Voilà, il part avec ses carrosses, ses gardes du corps, ses aumôniers, ses cuisiniers. Enfin, il y a un grand cortège comme ça qui va quitter le château de Saint-Cloud. Mais tout ce qui à ce moment-là ont une responsabilité, c'est-à-dire les élus, les sénateurs, elles sont les pères, c'était ce qu'on appelait à l'époque les sénateurs, les grands industriels, Talleyrand, les ambassadeurs des autres puissances, qui se disent, enfin, si la révolution recommence en France, c'est l'ordre européen qui va s'effondrer, tout le monde veut une solution. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête qu'en 1830, toute la génération qui est là a connu soit directement, soit par ses parents, les atrocités de la révolution de 93. Et donc les gens se disent, mais ça va recommencer. Donc ça va recommencer, la guillotine va recommencer. Les gens sont prêts. Moi je le montre, la comtesse de Boynes, qui est une grande mémorialiste de l'époque, et je me suis beaucoup appuyé sur ses souvenirs, elle commence à faire ses bagages. Elle va chez son banquier prendre ses lettres de change pour pouvoir partir à l'étranger. Donc cette peur, j'ai voulu la montrer parce que aujourd'hui, on a évidemment une vision extrêmement positive de la Révolution française pour tout ce qu'elle a apporté au pays. Mais à l'époque, les gens n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de la Révolution parce qu'ils ne veulent pas du désordre, ils ne veulent pas surtout des massacres. Et donc, on va trouver dans le cousin du roi, le duc d'Orléans, qui est un cousin éloigné, mais cousin du roi, une sorte d'alternative. On va laisser partir un roi du passé pour essayer de trouver un roi du présent.
En tout cas, c'est ce que vous racontez dans ce souffle de l'histoire de France. Je disais roman national. Enfin, votre roman s'inscrit dans le roman national.
Ah oui, c'est-à-dire que j'ai la volonté, vraiment...
La formule ne plaît pas à tout le monde, roman national.
Mais je ne comprends pas pourquoi.
Il y a des débats, oui.
Écoutez-moi, il y a des débats que je peux comprendre, d'autres que je ne peux pas comprendre. Nous, notre unité nationale, elle est construite autour d'un roman national. Qu'est-ce que ça veut dire, le roman national? Mais c'est simplement qu'on raconte l'histoire. Voilà. Donc pourquoi est-ce que le roman national serait... Vraiment, c'est absurde. Il y a l'histoire universitaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à il y a 50 ans, les universitaires se sont tellement enfermés dans des débats intellectuels que plus personne ne les lit. Et si donc il n'y a pas des historiens qui décident d'utiliser l'écriture, la littérature, pour faire passer ces moments d'histoire, ensuite au lecteur de voir si l'événement, comment, à lui de l'analyser. Moi, ce que j'ai voulu, c'est le raconter. Ce que j'ai voulu, c'est d'une certaine façon, d'un lieu vers l'autre, d'un jour sur l'autre, que le lecteur, avec tout ce que j'ai pu rassembler comme documentation, reconstitue par le regard. En quelque sorte, c'est aussi très marqué par notre culture télévisuelle. C'est-à-dire que j'ai voulu montrer. Voilà, j'ai voulu montrer. Je n'ai pas voulu décider, je n'ai pas voulu expliciter, je n'ai pas voulu condamner, j'ai voulu montrer. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a encore que l'écriture, comme à l'époque de Michelet, qui permet de montrer l'histoire.
À l'instant, Camille Pascal, auteur de L'été des quatre rois, paru chez Plon, 650 pages bien tassées qui nous plongent au cœur d'un été inédit dans l'histoire de France, celui de 1830, où quatre rois se sont succédés sur le trône. Dernière pause musicale de ce wagon-livre, mais nous restons ensemble jusqu'à midi et nous terminerons ce 361e numéro avec Jean-Joseph Julot qui nous donnera lecture de la dictée de Livres en vigne. Et puis je rappelle que vous retrouvez le nom des auteurs et les références des ouvrages dont il a été question sur le site d'archives de l'émission. Pour cela, quelques clics, www.yannickpetit.fr. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Her umbrella, and I look the other way as they are kissing their There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me. And so I raise my head. She does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt. And while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Chaque année, Livre en Vigne organise sa dictée, parrainée par Didier Van Kovelaert et présidée par Jean-Joseph Julot, qui va d'ailleurs, dans quelques minutes, vous lire le texte qui a été proposé aux candidats de cette dictée de Livres en Vigne. Je rappelle que Jean-Joseph Julot est écrivain, auteur de romans, de nouvelles et d'essais. Mentionnons la littérature française pour les nuls, ainsi que l'histoire de France pour les nuls. Ces deux ouvrages sont disponibles aux éditions First. Voici donc tout de suite la dictée et le texte de la dictée de la 11e édition de Livres en Vigne, lu par Jean-Joseph Julot.
Vive la République, vive la gastronomie. En ce 226e anniversaire de la proclamation de la Première République française en 1792, nous avons décidé de vous offrir un banquet de vocables hantés dans la tradition gastronomique, un festin de termes friands, un Balthazar d'esculentes expressions qui vont exciter votre appétit. Pénétrons d'abord à pas feutrés, dans l'antre parfumé d'un maître-queue qui se situerait par exemple à quelques 20 km du clos de Vougeot, direction nord-nord-est. Chef, que vous apprêtez-vous à faire? Eh bien, je vais trousser deux poulettes. Plaît-il? Cela signifie que je vais attacher les pattes et les ailes de mes volailles avant de les faire passer à la casserole, afin que les deux solilesses soient d'une tendreté plus moelleuse que jamais. Nous nous en étions doutés. Et maintenant, eh bien, je vais lutter mes cocottes, c'est-à-dire, je vais enduire de lutte le pourtour de mes récipients afin qu'ils mijotent des papillotes aux échalotes, des gélinottes à la cancoyotte, des pleurotes rissolées et de la matelote, tout pour satisfaire les quenottes. Après nous être laissés charmer par le virtuose du piano, nous nous sommes complus à admirer les aromates olives claires, à humer les pets de nonne fourrées à la confiture de cynorhodon, les blancs mangés salés, les haddocks panés, les profiteroles pralinés. Nous avons été séduits par ces préparations qui, de tout temps, accompagnées de Nuit Saint-Georges, Alos Corton, Bourgogne Pastougrain, ou autres filtres divins aux capiteux effluves antiques, se sont vus dévorer à l'occasion d'agapes bienvenues telles celles qui vous attendent après cette épreuve où vous vous êtes nourri de termes jolis et, pour être franc, après cette demi-heure d'orthographe où vous avez vraiment dégusté.
Alors, il y avait une phrase torpille. Alors, la phrase torpille, c'est la phrase que l'on soumet au petit surdoué de l'orthographe. Alors, torpille.
Hein. Exactement. La phrase torpille, c'est une phrase que nous avons décidé d'inscrire au programme à la fin de la dictée, parce qu'il y a des experts qui viennent d'un peu partout en France, souvent, qui font toutes les dictées de l'Hexagone, et ça permet de départager. Donc, je vais vous la lire. Cette phrase torpille. Sur la surface libérée par des blanquettoques ayant grignoté une forêt équienne aux arbres skiaphiles, après qu'une schlitte eut évacué les troncs et les cespites souchets, une auberge avait été construite. On y savourait du waterzoï, de vrais feux, des bécoffs, des fleischnacka, de la flamme cuche et du quinaman. C'était simple, finalement.
C'était donc le texte de la dictée qui a été proposé lors de Livre en Vigne le 22 septembre dernier. Texte de la dictée lu par Jean-Joseph Julot. À l'instant, Jean-Joseph Julot, écrivain, auteur de romans, de nouvelles et d'essais. On rappellera La littérature française pour les nuls ou L'histoire de France pour les nuls. Ces deux ouvrages sont disponibles en librairie aux éditions First. Dernière pause musicale et puis on se retrouve juste après pour conclure et pour vous donner le programme du prochain numéro de Wagon Livre. Ce sera le samedi 10 novembre, toujours à 11h, sur votre radio locale, sur Radion 90.5 dans Lyon, et puis sur le www.radion.fr aux quatre coins de la Bourgogne et de France.
À part Brassens, les oiseaux, quoi écouter? L'eau qui rigole au caniveau de mon quartier, le vent qui vient tirer des plaintes au peuplier, et toujours la folle complainte de Charles Trainé. À part ta peau de sirène, à quoi toucher? À l'outil taillé dans le chêne ou l'olivier, au crayon que l'enfant promène sur un cahier, aux touches d'ivoire et d'ébène d'un vieux clavier. À part tes fruits défendus, à quoi goûter? À l'impossible, à l'imprévu et au danger, à ce bon verre de vieux vin rouge si parfumé, à tes lèvres que tu entr'ouvres sous mes baisers.
Notre émission touche pratiquement à sa fin. Merci d'avoir suivi ce 361e numéro de Wagon Livre consacré aujourd'hui à Livres en Vigne millésime 2018 qui s'est tenu les 22 et 23 septembre dernier au château du Clos de Vougeot. Petit clin d'œil affectueux et complice à l'organisatrice de ce salon, Evelyne Philippe, qui nous reçoit toujours avec sa gentillesse coutumière et nous la remercions de sa confiance et de son accueil. Pour ma part, je vous donne rendez-vous samedi prochain, 10 novembre, toujours à 11h sur Radion, pour une émission d'un autre genre avec un invité haut en couleur, un singulier personnage. C'est en compagnie de Guy Paqui que nous passerons le prochain numéro de Wagon Livre. Guy Paqui, musicien, animateur, présentateur de spectacles, qui s'est ensuite consacré aux carrières d'artistes. Il a été notamment le manager de Marie Myriam, des Martin Circus, du groupe Gold, d'Hervé Villard ou encore de Michel Sardou. C'est la semaine prochaine dans Wagon Livre sur Radio. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine, au chaud et bien au chaud. Merci de votre écoute et de votre fidélité. À très bientôt.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.